La chambre de la mariée, Charles Dickens, partie 2 sur 2. Il envisageait de partir en voyage. Non pas qu'il ait voulu dépenser son argent, car il était avare, et il aimait tendrement sa fortune. C'était d'ailleurs la seule chose qu'il lui aimait tendrement. Mais il ne supportait plus cette maison sinistre, il voulait s'en éloigner et l'oublier pour toujours. Oui, mais la maison valait de l'argent, et il fallait économiser l'argent. Aussi, il décida de la vendre avant de partir. Et pour en tirer un meilleur prix, il convenait de lui donner un air moins misérable. Il engagea des ouvriers pour débroussailler le jardin à l'abandon, débarrasser le bois mort, tailler le lierre dont les lourdes branches occultaient fenêtres et pignons, et dégager les allées où les herbes folles montaient à mi-cuisse. Lui-même, armé d'une faucille, besognait avec eux, poursuivant ses efforts plus tard que tous. Un soir, il resta seul à travailler à la tombée de la nuit. C'était un soir d'automne. La jeune mariée était morte depuis 5 semaines. « Il fait trop nuit pour continuer à travailler », se dit-il. « C'est assez pour ce soir. » Mais il répugnait à rentrer dans cette maison qu'il détestait. En jetant un coup d'œil au porche aussi sombre qu'un caveau, il sentit que planait sur cette maison quelque malédiction. À côté du porche, près de l'endroit où il se tenait, se trouvait un arbre dont les branches balançaient devant la vieille baie vitrée de la chambre de la mariée, où la chose avait eu lieu. Tout à coup, il sursauta. L'arbre s'était agité. Puis, à nouveau, il s'agita. Alors même qu'il n'y avait pas un souffle de vent, il leva les yeux. Là, dans les branches, il y avait quelqu'un. Monté dans l'arbre, un homme le regardait d'en haut, lui qui le regardait d'en bas. Dans un craquement et un mouvement de branches, l'inconnu descendit prestement et sauta sur ses pieds juste devant lui. C'était un homme jeune et svelte, à peu près du même âge que la mariée, aux longs cheveux châtain clair. Agrippant l'inconnu au col, il cria « Quel est ce voleur ?» Le geste du bras que fit le jeune homme pour se dégager le heurta à la face et au cou. Ils s'empoignèrent, mais le jeune homme se libéra d'un bond en arrière et s'écria avec une horreur évidente « Ne me touchez pas ! Je préférerais que la main du diable se pose sur moi !» Lui se tenait immobile, faucille en main, à regarder le jeune homme. Dans les yeux de celui-ci brillait exactement le même regard que celui que lui avait lancé la jeune mariée en mourant. Un regard qu'il pensait bien ne jamais revoir. « Je ne suis pas un voleur du tout, et même si je l'étais, je ne voudrais pas un centime de votre fortune, même si elle pouvait me décrocher la lune, espèce d'assassin !»«
Quoi ?
Cet arbre !» dit le jeune homme en le désignant du doigt. Cela fait presque 4 ans que j'y suis monté pour la première fois. C'est pour elle que j'y suis monté, pour la regarder. Je l'ai vue, je lui ai parlé. Et ensuite, j'y suis monté souvent pour la contempler et lui parler. J'étais encore un gamin qui se cachait dans le feuillage quand elle m'a donné ceci par la baie vitrée. Il montrait une tresse de cheveux blonds pâles, nouée par un ruban de crêpe noire. Toute sa vie n'a été qu'un long deuil. Elle m'a donné cette tresse en souvenir pour montrer qu'elle était morte pour la terre entière, sauf pour vous. Si j'avais été plus vieux, si je l'avais vue plus tôt, j'aurais pu la sauver de vos griffes. Mais elle était déjà prise à votre piège quand j'ai escaladé cet arbre pour la première fois. Et que pouvais-je faire à ce moment-là pour briser le piège ? À ces mots, il se mit à pleurer et à crier, d'abord à mi-voix, puis de toutes ses forces. « Assassin ! Je suis monté dans cet arbre la nuit où vous l'avez ramené ici. Depuis cet arbre, je l'ai entendu parler de l'horloge de la mort qui l'attendait à la porte. Et par 3 fois, je suis monté dans cet arbre pendant que vous la gardiez enfermée avec vous pour la tuer à petit feu. Depuis cet arbre, je l'ai vue gisant morte sur son lit. Depuis cet arbre, je vous ai surveillé pour avoir des traces et des preuves de votre crime. Comment vous vous y êtes pris ? Je continue à l'ignorer, mais je vous poursuivrai jusqu'au jour où vous devrez remettre votre vie aux mains du bourreau. Jamais vous ne serez débarrassé de moi avant. Je l'aimais. Jamais je ne vous laisserai en paix. Assassin, je l'aimais. » Le jeune homme était tête nue, car son chapeau avait voltigé à terre lorsqu'il était descendu de l'arbre. Il fit un pas en direction de la porte du jardin. Pour y arriver, il devait passer devant l'autre, lui. Il y avait assez de place pour faire passer deux anciens attelages de chevaux, et la bordure gazonnée était assez large pour que le jeune homme se tienne à distance de lui, mais son visage et toute sa personne exprimaient un dégoût évident et insupportable. Lui, je veux dire notre homme, n'avait pas fait le moindre geste depuis qu'il s'était immobilisé pour toiser le jeune homme. Mais à cet instant, il pivota pour le regarder partir. Le garçon était maintenant de dos, et son chapeau envolé, seul se voyait sa chevelure châtain clair. C'est alors que lui vit un arc rouge bondir de sa propre main. Il sut avant même de lancer la faucille à quel endroit elle avait frappé. Je dis bien « avait frappé » et non « allait frapper », car il était bien conscient que les choses s'étaient passées avant qu'il ne bouge. Le garçon gisait déjà face contre terre, la faucille plantée profondément dans le crâne. Alors, lui, il enterra le corps durant la nuit au pied de l'arbre, et dès les premières lueurs de l'aube, il s'employa à retourner tout le sol autour de l'arbre, rabattant et taillant à grands coups les buissons et les taillis environnants. Lorsqu'arrivèrent les jardiniers, il n'y avait plus rien de suspect, et de fait, on ne suspecta rien. Mais il avait suffi de ce moment pour que soient déjouées toutes ses précautions et que soit anéantie la belle stratégie qu'il avait si longuement mûrie et si parfaitement menée à bien. Il s'était débarrassé de la mariée et s'était approprié sa fortune sans prendre le moindre risque. Et voilà qu'avec ce crime dont il ne pourrait tirer aucun avantage, il était condamné à vivre pour toujours avec la menace d'une corde au cou. Par-dessus tout, il était prisonnier de cette maison horrible et funèbre qu'il ne supportait plus, mais où il était bien obligé de vivre, car il ne pouvait ni la vendre, ni la quitter, de peur que l'on y découvrît quelque chose. Il engagea à son service un vieil homme et sa femme, et continua à vivre dans cette maison qu'il redoutait. Mais pendant longtemps, c'est le jardin qui le laissa dans le plus grand dilemme. Quel était le meilleur plan pour éviter d'attirer l'attention sur lui ? L'entretenir soigneusement, ou au contraire le laisser retourner à l'état d'abandon dans lequel il l'avait initialement trouvé? Il adopta la position intermédiaire qui consistait à s'en occuper lui-même lors de ses moments d'oisiveté en fin de journée, en demandant alors son aide à son vieux domestique, mais sans jamais, bien sûr, laisser celui-ci y travailler seul. Et il s'improvisa une petite tonnelle contre l'arbre, où il pouvait s'asseoir pour surveiller l'endroit. Au fil des changements de saison, l'arbre changeait, lui aussi. Et lui, y percevait des dangers toujours changeants. À la période où poussaient les jeunes feuilles, il croyait voir les branches les plus hautes suggérer la présence du jeune homme, ou plutôt dessiner la forme exacte de sa silhouette, assise dans la fourche des deux branches qui se balançaient dans le vent. À la période où tombaient les feuilles, il croyait les voir former des lettres suggérant quelques messages sur le chemin où elles s'abattaient. Ou bien, elles avaient tendance à s'amonceler à la manière d'un monticule au-dessus de l'endroit où gisait le corps. En hiver, lorsque les arbres étaient nus, il croyait voir les branches reproduire par leurs oscillations le coup que le jeune homme lui avait donné, et croyait y voir une menace explicite aux yeux de tous. Au printemps, lorsque la sève montait dans le tronc, il se demandait si elle entraînerait avec elle des particules de sang desséchées pour dessiner cette année encore, plus clairement que les années précédentes, la silhouette du jeune homme caché dans les feuilles et se balançant dans le vent. Malgré cela, il fit prospérer son argent. Encore et toujours, il se lança dans la traite négrière, le commerce de la poudre d'or et la plupart des négoces secrets les plus rentables. en disant qu'il avait si bien fait prospérer son argent que les marchands et les transporteurs qui faisaient affaire avec lui ne mentaient pas, pour une fois, lorsqu'il disait qu'il avait augmenté sa fortune de 1200%. Voilà un siècle qu'il amassa cette fortune, et à cette époque, il n'était pas difficile pour quelqu'un de disparaître. Il avait appris l'identité du jeune homme, car des recherches avaient été lancées pour le retrouver, mais celles-ci n'avaient pas abouti, et tout le monde avait oublié l'individu. Depuis la nuit où il l'avait enterré au pied de l'arbre, 10 saisons successives avaient passé, et avec elles 10 séries de métamorphoses de l'arbre. Puis, un jour, un redoutable orage frappa à cet endroit. Il se déclencha à minuit et fit rage jusqu'à l'aube. Et ce matin-là, le vieux domestique vint l'informer que la foudre s'était abattue sur l'arbre. Elle avait fendu le tronc en deux avec une force stupéfiante, et celui-ci gisait en 2 lambeaux calcinés. L'un était tombé contre la maison, l'autre avait éventré en s'écroulant une portion du vieux mur de briques du jardin. L'arbre était ouvert en 2 sur toute sa hauteur, mais un peu au-dessus du sol, la cassure s'arrêtait net. Le spectacle attirait de nombreux curieux. Et saisi à nouveau par toutes ses craintes anciennes, il se posta dans sa tonnelle pour surveiller les badauds venus contempler le triste spectacle. Très vite, ils commencèrent à affluer en quantité si inquiétante qu'il ferma le portail du jardin et refusa de laisser entrer quiconque. Mais des scientifiques se présentèrent, venus de loin, dans le but d'examiner l'arbre. Maudit soit le jour où il les fit entrer. Car il les fit entrer. Que la peste les emporte ! Ils voulaient arracher la souche par les racines pour en faire des observations sur celle-ci, ainsi que sur la terre au pied de l'arbre. Lui vivant, jamais ! Alors, ils lui offrirent de l'argent. Eux, des scientifiques qu'il aurait pu s'acheter par dizaines d'un seul trait de plume. Il les reconduisit au portail du jardin, le ferma à clé et le barricada. Cependant, les scientifiques n'avaient pas l'intention d'abandonner leur projet et ils achetèrent la confiance du vieux domestique, ce scélérat, cet ingrat, qui se plaignait d'être sous-payé chaque fois qu'il recevait son salaire. Ils s'introduisirent de nuit dans le jardin, armés de lanternes, de bêches et de pelles, et s'attaquèrent à l'arbre. Lui dormait dans sa chambre, qui se trouvait dans une tourelle de l'autre côté de la maison. Depuis sa disparition, il avait déserté la chambre de la mariée. Mais il fut assailli en rêve par des images de bêches et de pelles, et se leva. Il s'approcha d'une fenêtre du premier étage qui donnait sur le jardin et d'où il pouvait voir les hommes avec leurs lanternes à côté d'un gros tas de terre meuble. La terre qu'il avait lui-même retournée, puis remise en place la dernière fois qu'elle avait été exposée à l'air. Ils avaient découvert la chose. Ils venaient à l'instant même de tomber dessus. Tous se penchaient pour regarder. L'un d'eux constata « Le crâne a été fracassé. » Un deuxième « Regardez, des os !» Et un autre encore « Regardez, des vêtements !» Puis le premier donna un nouveau coup de bêche et s'écria « Une faucille rouillée !» Lui se rendit compte le lendemain qu'on l'avait placé sous stricte surveillance et qu'il lui était impossible d'aller où que ce soit sans être suivi. Avant la fin de la semaine, on vint l'arrêter, l'emprisonner. On reconstitua peu à peu les circonstances du crime avec à son encontre une hostilité acharnée et une ingéniosité accablante. Voyez avec quelle ironie la justice des hommes lui fut appliquée. Il fut également accusé d'avoir empoisonné la jeune fille de la chambre de la mariée. Lui, qui avait déployé tant d'efforts maniaques pour ne pas mettre en péril un seul de ses propres cheveux. On n'avait pas encore déterminé pour lequel des 2 crimes il serait traduit en justice. On retint finalement celui du jeune homme qu'appuyé des preuves. Il fut déclaré coupable et condamné à mort. serpentes misérables, assoiffées de sang. Ils étaient tellement déterminés à le voir pendu qu'ils l'auraient déclaré coupable de tout et n'importe quoi. Toute sa fortune échoua à le sauver et il fut pendu, ou plutôt je fus pendu, car cet homme c'est moi. Il y a 100 ans de cela, j'ai été pendu dans la forteresse de Lancaster, le visage tourné vers la muraille.
À cette annonce effrayante, Mr. Goodchild voulut se lever pour appeler à l'aide, mais il était cloué à son siège par les 2 filaments de feu que les yeux du vieillard avaient plantés dans ses pupilles, et pas un son ne sortit de sa gorge. Son sens de l'ouïe, en revanche, semblait exacerbé, et il entendit le clocher sonner 2 heures. Dès que les 2 coups eurent retenti, il vit devant lui non plus un, mais 2 vieillards. 2. Les yeux de l'un et l'autre étaient reliés aux siens par 2 rubans de feu. L'un et l'autre s'adressaient à lui à la même seconde exactement, l'un et l'autre grinçant des dents avec la même grimace et la même narine perforée et le même teint empourpré. 2 vieillards, en tout point pareils, et pourtant apparaissant bien en double. La copie tout aussi nette que l'original, le second tout aussi réel que le premier.
« À quelle heure ?» demandèrent ces 2 vieillards. « Vous êtes-vous présenté à la porte d'entrée ?»«
À 6 heures. »
« Et il y avait 6 vieillards dans l'escalier. »
Mr. Goodchild essuya, ou du moins tenta d'essuyer les gouttes de transpiration qui coulaient sur son front, tandis que les 2 vieillards continuaient d'une seule et même voix, et en parlant au singulier.
« Mon corps a été autopsié, mais avant même qu'on ait rassemblé les morceaux de ma dépouille et qu'on m'ait suspendu à un grappin d'acier, il commença à se murmurer que la chambre de la mariée était hantée. C'est bien vrai, elle était hantée, et c'est moi qui me trouvais dans la pièce. Ou plutôt, nous étions tous 2 dans la pièce, elle et moi. Moi, dans mon fauteuil au coin du feu, et elle redevenue l'ogre blanche rampant péniblement vers moi. Seulement cette fois, ce n'est plus moi qui parlais, c'était elle. Et le seul mot qu'elle me répétait du milieu de la nuit jusqu'au petit matin, c'était « Vie !» Le jeune homme était là lui aussi, grimpé dans l'arbre devant la fenêtre et se balançant devant la lune au rythme des oscillations de l'arbre. Et depuis, il reste là, à mes pieds dans ma détresse et au gré de ses balancements dans la lumière blafarde et les ombres bleutées, on aperçoit sur sa tête découverte une faucille plantée en biseau dans ses cheveux. Dans la chambre de la mariée, toutes les nuits, de minuit jusqu'à l'aube, à l'exception d'un mois dans l'année, comme je vais vous l'expliquer, sous les yeux du garçon caché dans son arbre, elle rampe dans ma direction, en s'approchant toujours mais sans jamais arriver jusqu'à moi, en se détachant toujours dans une clarté lunaire, que la lune brille ou non, et en prononçant toujours cet unique mot de minuit jusqu'à l'aube, « Vie !» Cependant, le mois précis où je fus exécutée, ce mois de 30 jours dans lequel nous sommes, la chambre de la mariée reste calme et déserte, mais pas mon ancien cachot et pas les pièces de la maison où je passais 10 ans dans une perpétuelle angoisse. Dans ces lieux vont et viennent les esprits. À 1 heure du matin, je suis un vieillard, celui qui vous est apparu lorsque le clocher a sonné 1 heure. À 2 heures du matin, je suis 2 vieillards. À 3 heures, 3 vieillards, et ainsi de suite jusqu'à minuit, où je suis, ou devrais-je dire, nous sommes 12 vieillards. 1. Pour chaque 100e de la fortune que j'avais amassée, et chacun de ces 12 hommes endure 12 fois ma détresse passée, les souffrances de mon agonie, et de midi à minuit, sous la forme de ces 12 vieillards torturés et rongés d'angoisse, j'attends la venue du bourreau. Et à minuit, ces 12 vieillards invisibles pendent sans vie sous les murs de la forteresse de Lancaster, le visage tourné vers la muraille.
lorsque la chambre de la mariée a commencé à être entrée, il m'a été révélé que ce supplice ne cesserait que le jour où je parviendrai à raconter mon histoire, y compris ce supplice lui-même, à deux hommes à la fois, venus du monde des vivants. Aussi, année après année, j'ai attendu que deux hommes venus du monde des vivants viennent partager pour une nuit la chambre de la mariée. Je sais, même si j'ignore par quel moyen je l'appris, que si deux hommes du monde des vivants se trouvent dans cette chambre à 1 h du matin, les yeux encore ouverts, ils me verront m'asseoir sur cette chaise. À la longue, la rumeur qui disait cette chambre hantée a amené deux hommes à tenter l'aventure. Il était minuit et j'avais tout juste pris ma place dans l'âtre où semblaient m'attirer les flammes qui me ramenaient à la vie. Lorsque je les entendis monter l'escalier, l'un d'eux était un homme dans la force de l'âge, aux alentours de 45 ans, hardi, jovial et vif. Le second était plus jeune, d'une douzaine d'années. Ils avaient apporté un panier de provisions ainsi que des boissons et étaient accompagnés d'une jeune femme qui portait du bois et des braises pour allumer le feu. Quand celui-ci eut pris, l'homme hardi, jovial et vif la raccompagna sur le palier, s'assura qu'elle descendait l'escalier sans encombre et revint en riant. Il ferma la porte à double tour, parcourut la pièce du regard et déposa le contenu de son panier sur une table placée devant la cheminée sans s'apercevoir que posté dans l'âtre, j'étais tout près de lui. Et après avoir rempli les verres, se mit à manger et à boire, de même que son compagnon. Et même si c'est le premier qui dirigeait les opérations, le second était d'humeur tout aussi légère et sereine. Après avoir fini de dîner, ils posèrent des pistolets sur la table, se rapprochèrent du feu et commencèrent à fumer des pipes de fabrication étrangère. Ils avaient fait le voyage ensemble, avaient partagé bien des expériences et avaient énormément de choses en commun. Au milieu de leur conversation enjouée, le plus jeune avait remarqué que le premier, le plus déterminé, était toujours partant pour quelque aventure, que ce soit celle-ci ou une autre. Le premier corrigea. « Pas tout à fait, Dick. Je n'ai peur de rien, sauf de moi-même. » Cela parut assombrir un peu l'humeur du plus jeune, qui lui demanda ce qu'il entendait par là. « Eh bien, » répondit le premier, nous voulons prouver que ce fantôme n'existe pas. En fait, je ne réponds pas de ce qu'inventerait mon imagination si j'étais seul ou des tours que me joueraient mes sens s'ils étaient entièrement maîtres de moi, mais en compagnie de quelqu'un et en particulier de toi, Dick. Je serais prêt à affronter tous les fantômes jamais connus. Je ne pensais humblement pas être si important ce soir, fit l'autre. Si important, reprit le premier sur un ton plus grave qu'auparavant, que je n'aurais jamais envisagé de passer la nuit ici tout seul, toujours pour cette même raison. Il restait quelques heures avant que le clocher sonnât 1 h. Le plus jeune dodelinait de la tête depuis la dernière remarque et commençait à fermer les yeux. « Dick, ne t'endors pas !» lui enjoignit le plus déterminé sur un ton encore léger. « Ce sont les heures juste après minuit qui sont les plus difficiles à passer. »
L'autre, malgré tous ses efforts, continuait à piquer de la tête.
« Ne t'endors pas, Dick !» le pressa le premier.
Dans un murmure à peine compréhensible, Dick expliqua.
« Je n'y arrive pas. C'est étrange, c'est plus fort que moi. »
Son compagnon le regarda avec, dans les yeux, une impression horrifiée. Et moi aussi, à ma manière, je me sentis horrifié car 1 h du matin allait bientôt sonner et je sentais que le plus jeune s'était abandonné à mon influence maléfique qui le condamnait à s'endormir et me condamnait aussi moi-même.
« Lève-toi pour aller faire quelques pas, Dick !»
lui cria le plus décidé.
« Essaye au moins !»
Il alla jusqu'à saisir le dossier de la chaise pour secouer son compagnon. Mais en vain, 1 h sonna. Et seul restait devant moi le plus âgé, pétrifié. Pour lui seul, j'étais condamnée à raconter mon histoire, sans aucun espoir de salut. Pour lui seul, j'apparaissais comme un fantôme effrayant, lui confessant mon histoire pour rien. Et je pressens qu'il en sera toujours ainsi. Jamais ne viendront me délivrer de mortels unis à mon écoute. Dès que j'apparais, l'un des deux sombre dans le sommeil. Il ne peut plus ni me voir ni m'entendre. Je suis condamnée à toujours parler à un auditeur solitaire pour rien. Ah, je suis maudit, maudit, maudit.
Tout d'un coup, Mr. Goodchild réalisa dans quelle horrible situation il se trouvait. Seul, face à ces deux vieillards qui se tordaient les mains de désespoir, en d'autres termes, seul avec le spectre. Car il réalisait que Mr. Riddle avait été plongé dans un état de léthargie par le charme qui se déclenchait au tout premier coup après minuit. Cette brutale prise de conscience l'emplit d'une terreur tellement indicible qu'il se mit à se débattre de toutes ses forces pour se libérer des quatre filaments de feu qui l'emprisonnaient, et à force de tirer dessus, il parvint à les faire céder. Ainsi libéré, il s'empara de Mr. Riddle, qui restait étendu sur son sofa, et se précipita dans les escaliers en le portant.
« Mais qu'est-ce qui te prend, Francis ?»
gémit Mr. Riddle.
« Ma chambre n'est pas en bas. Où est-ce que tu m'emmènes, bon sang ? Je peux marcher avec ma canne, je n'ai pas besoin qu'on me porte. Pose-moi par terre !»
Mr. Goodchild le posa à terre dans le hall d'entrée et jeta autour de lui un regard hagard.
« Mais qu'est-ce que tu fais à t'en prendre à moi comme si tu étais en train de plonger à la rescousse d'une dame en détresse, au péril de ta vie ?»
demanda Mr. Riddle sur un ton exaspéré.
« Le vieillard solitaire !»
cria Mr. Goodchild, l'air égaré. Et puis ensuite...
« Deux vieillards !»
Tout ce que Mr. Riddle daigna répondre, c'est « La vieillarde, tu veux dire ?» Il commença à remonter les marches d'un pas chancelant en s'agrippant à l'imposante balustrade.
« Je t'assure, Tom !»
commença Mr. Goodchild en essayant de l'aider.
« Que depuis que tu t'es endormi... Ah, en voilà une bonne !» fit Thomas Idle. « Moi qui n'ai pas fermé l'œil !»
Avec la mauvaise foi typique des gens un peu honteux d'avoir été surpris à somnoler en dehors de leur lit, comme cela peut arriver à tout le monde, Mr. Riddle s'entêta à répéter qu'il n'avait pas fermé l'œil. Et c'est la même mauvaise foi qui poussa Mr. Goodchild, lorsque Riddle l'accusa de s'être lui aussi assoupi, à récuser l'accusion sur le même ton de dignité offensée. Cette polémique compliqua notablement la question de savoir s'il y avait eu là un seul ou deux vieillards, et rendit rapidement impossible toute conclusion claire. Mr. Riddle pensait que tout cela avait été inspiré par le gâteau de mariage qu'on leur avait servi, mêlé à des bribes éparses de leurs activités et de leurs pensées de la journée précédente. Et comment était-ce possible ? Puisqu'ils n'avaient pas succombé au sommeil, de quel droit Mr. Riddle, qui lui s'était bel et bien endormi, pouvait-il déclarer de telles choses ? À quoi Mr. Riddle répondit qu'il ne s'était pas endormi. Non. Jamais cela ne lui arrivait. C'était Goodchild qui s'endormait en règle générale. Sur ces mots, ils se quittèrent légèrement offusqués à la porte de leurs chambres respectives. Mr. Goodchild conclut en disant qu'il avait bien senti et vécu dans le vieux salon bien réel et concret de cette auberge bien réelle et concrète. Mr. Riddle n'allait tout de même pas en contester l'existence. Absolument tous les incidents dont le récit va s'achever dans une ligne ou deux. Et d'ailleurs, il les mettrait par écrit, pour les publier, en racontant absolument tout. « Mais faites donc !» lui rétorqua Mr. Riddle. Il le fit donc. Et c'est exactement ce que vous venez de lire.